écoutez Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. Fred de Radio Alpa est parti à la rencontre de l'artiste Molto Morbidi. C'est la carte blanche de la semaine à retrouver en fin d'émission pour la sortie de son EP Chocolate Ashtray. Au Laker, le rock n'est pas mort. Les deux albums soutenus par les radios de la Ferrarock cette semaine le montrent bien. Les Belges de Marcel en sont à leur deuxième coup d'essai avec Au Fornaise, situé exactement à mi-chemin entre les Dead Kennedys et Talk Talk, Nina Hagen et Jacques Dutronc. Écoute et interview par Romain de la radio PFM à Arras. La Ferrarock avait plus que salué Coyote, un album particulièrement abouti dans la discographie des 14 sorties en 8 ans de Tiège d'Afrique. Pour autant, ça ne fait aucun doute que l'ascension du groupe bordelais est loin d'être finie. Cette fois-ci, Toine Pays n'est plus le seul freak aux manettes des compositions. Negative Freak est une œuvre collective que l'on écoute avec Bingo de Radio Méga à Valence.
À la tête du monstre sonore TH d'Afrique depuis 10 ans et pour son 15e album, le bordelais Toineau Palis lâche enfin la bride en invitant les membres de son groupe à composer avec lui. Sur Negative Freaks, qui est sorti le 21 mars sur une belle triplette de labels All in Banana Records, Flipping Freaks Records et les Disques du Paradis, rien ne change vraiment. Les fondamentaux demeurent, énergie tellurique du proto-grunge et mélodies imparables de la power pop sont au rendez-vous. Rien ne change et pourtant tout est différent. Sur ce disque, des nouvelles idées et sonorités pointent leur nez, les claviers sont bien mis en avant, les compositions se font parfois plus labyrinthiques, les frontières volent en éclats. Je suis Bingo de Radio Méga de Valence. Pour en savoir un peu plus sur ce nouvel album, il me fallait les interviewer. Aujourd'hui dans Dig Dig Diggers, rencontre téléphonique avec les membres du groupe TH d'Afrique. Toineau, Sylvain, Rémi et Quentin, bonjour.
Bonjour.
Cela fait 10 ans que TH d'Afrique existe, mais votre 15e album, Negative Freak, c'est le premier qui a véritablement été composé en groupe, alors qu'auparavant, seul Toineau s'en chargeait. Qu'est-ce qui a motivé cette envie récente ?
C'était une lassitude de ma part, en fait, de reproduire toujours la même formule qui était genre que j'enregistrais les albums dans ma chambre et ensuite je les donnais au... J'amenais tout ça aux gars du groupe et leur seul apport artistique était d'arranger en fait pour le live. Je leur ai proposé de partir sur un nouveau délire qui était juste on compose tout ensemble depuis le départ quoi. Donc de faire un nouveau groupe en fait.
Ok, et Toineau, est-ce que tu gardes quand même une chasse gardée sur ces chansons-là ? Je sais pas, le texte, le final cut ?
Le texte, oui, mais le final cut, non, pas du tout, justement. Il y a vraiment un travail... collégial. Tout le monde apporte ses idées et en fait c'est la chanson qui décide, c'est pas genre l'un ou l'autre dans le groupe qui décide, c'est du travail de cerveau pour arriver à la meilleure chanson quoi.
Et par rapport à avant ce disque, qu'est-ce que, je sais pas, je pense aux nouveaux membres compositeurs Sylvain, Quentin ou Rémi, qu'est-ce qui change selon vous dans cette ouverture à vous ?
On peut mettre un peu plus de notre personnalité dans le disque, donc c'est chouette, moi j'ai apporté pas mal d'influence que j'ai personnellement. Je suis repassé sur une basse 6 qui est un instrument que j'utilise depuis longtemps, qui n'est pas vraiment une basse. Donc on a pu chacun apporter quelque chose de plus personnel dans l'album.
Alors Sylvain, tu devances mes questions parce que je voulais te poser une question sur cette basse à 6 cordes. N'est-ce pas une hérésie quand même ?
Si, totalement, c'est une hérésie. Voilà, ne jouez pas sur cet instrument. Laissez-moi l'exclusivité, s'il vous plaît. Je rigole, bien évidemment, achetez cet instrument si vous avez envie. We'll be right back.
Comme suggéré par le titre que l'on vient d'écouter, Don't Leave the Town, TH d'Afrique est attaché à la ville de Bordeaux et fait partie de la galaxie Flippin' Freaks Records, où les personnels des nombreux groupes du label se mélangent. Alors, est-ce que c'est facile de s'y retrouver parmi tous ces projets ?
Bah oui, il suffit de diguer un peu. En fait, Bordeaux, c'est une mini-scène où il y a beaucoup à manger, on va dire, quoi. Mais il suffit juste de s'y plonger un peu, et puis après, tu découvres par toi-même ce qui se passe, quoi.
On remarque aussi que dans le groupe, il y a beaucoup de palisses. Hein. Il y a Rémi, Sylvain, Toineau. C'est vraiment une affaire de famille, le groupe. Quentin, est-ce que tu t'y sens bien là-dedans ?
Bah, j'ai intégré la maison, donc ouais, ça va.
Ouais, il faut préciser que vous vivez un peu tous dans la même maison.
Ouais.
Family affair, comme
ouais,
dit,
ouais,
comme dit l'autre.
J'ai été adopté par les parents récemment, donc c'est cool.
J'ai vu dans la bio que l'enregistrement avait seulement duré 4 jours. C'est étonnant car tout semble vraiment très en place. Alors, y a-t-il une recette ? Et quelle est la part de travail en amont ?
Bah en fait, on a beaucoup répété avant d'aller au studio. On a composé et répété pendant, je dirais, 4 mois, je pense. Et bon, c'est pas 4 mois full, mais on avait les morceaux en tête avant de venir au studio. Et du coup, bah, on a mis que 4 jours en fait à les enregistrer, surtout que on les a enregistrés live. Donc c'est plus rapide, quoi.
Alors tout semble vraiment en place, bien maîtrisé. On sent que le hasard n'est pas très présent, mais sans vouloir forcément faire de jeu de mots avec le nom du groupe et même avec le titre de l'album, on sent désormais une dimension très control freak dans votre musique. Est-ce que c'est le cas ?
Non, c'est vrai que tout est calculé. On aime bien prendre soin vraiment des morceaux et c'est vrai que... chaque note est un peu réfléchie, chaque coup de cymbale, etc. On essaie vraiment de... Ben, en fait, c'est comme je te disais au début, c'était... on travaille vraiment pour la chanson. Et c'est la chanson qui va décider de si on doit mettre cette note-là à ce moment-là ou ce coup de cymbale à ce moment-là, quoi. Donc c'est très réfléchi, ouais.
J'ai senti quand même dans cet album que vous aviez diversifié vos influences, que les orchestrations avaient évolué, on va y revenir, mais que l'énergie et la mélodie restaient ce qui primait.
Ouais, bah c'est un peu ça. Mais de toute façon, je pense, dans TH d'Afrique, c'est un peu toujours comme ça. C'est faire des chansons pop avec une mélodie qui est catchy, quoi, qui accroche. Et derrière, tu peux faire passer tout ce que tu veux, en fait. Tu peux mettre des sonorités noisy, ou... Enfin, tu peux aller très loin, en fait, je trouve, dans l'arrangement. Et dans les textures, si à la base, bah, y a une belle mélodie, enfin une mélodie qui accroche et qui reste en tête. Et je pense que c'est un peu le truc de base de Tiège d'Afrique, mais aussi de nous, les musiciens, c'est ce qu'on aime, je pense. Sylvain Dancise aussi, il fait ça. Peut-être il va plus loin dans l'aspect rythmique des choses, etc., etc., quoi. Comme nous venons de l'entendre dans la chanson « Rage is Consuming Me », en ce qui concerne les orchestrations, on note que le clavier est bien mis en avant. Alors pourquoi ce choix désormais ? Alors peut-être qu'on va laisser parler Rémi, puisque c'est lui qui les tient.
Ouais, bah à la base j'étais guitariste dans le groupe, et quand on a eu ce nouveau format-là, je suis passé au clavier. Donc j'utilise deux claviers, un orgue italien là, des années 70, un tout petit orgue qui fait ce son un peu rétro. Et j'ai aussi un clavier Casio un peu cheap des années 90 qui fait des sons un peu de jeux vidéo, quoi. Le postulat de base avant de commencer à composer les chansons, c'est qu'on a un peu chacun changé les instruments qu'on utilisait. Et on avait l'idée d'une sorte de trio composé par du coup Sylvain, Toineau et Quentin qui... incarner une énergie un peu grungy, quoi, avec Toineau qui est sur une guitare un peu cheap et qui envoie des gros power chords, 6 qui a cette basse 6 et qui du coup a la possibilité à la fois de faire des lignes de basse et des accords bien puissants, et Quentin qui a un peu modifié son kit de drum pour avoir un son vraiment plus lourd. Et en fait il y a cette base, ce trio là qui s'est installé, et nous avec Benjamin on joue les parties lead, les parties solistes, et on a chacun notre identité avec Quentin, enfin avec pardon Benjamin qui est sur une guitare vraiment stridente noyée dans de la réverb, et moi de l'autre côté qui est sur le synthé, voilà. Et on a vraiment réussi à placer chaque musicien en partant sur cette base là, quoi.
J'ai été vachement impressionné par la section rythmique, moi, sur cet album, et notamment l'approche un peu déconstruite de certains titres, et c'est le cas sur le titre d'ouverture, la Was Mod. Quentin, qu'est-ce que tu peux nous en dire, puisque c'est toi qui bat?
Merci à toi, Noé, d'avoir composé cette partie batterie.
J'avoue, c'était un des morceaux qui était le plus abouti de mon côté quand on a commencé, quand j'ai commencé à amener les démos et les petits bouts de trucs qui ont formé les morceaux. Was Mod, c'était un morceau déjà assez abouti et je crois que c'est celui-là qui m'a fait dire. En fait, c'est un morceau que j'ai fait il y a très longtemps et je me suis dit mais ça serait pas mal d'en faire d'autres des comme ça, mais j'ai pas forcément trop d'idées, donc c'est cool de l'apporter aux autres pour qu'ils puissent mettre leur grain de sel et qu'on fasse des morceaux dans cette vibe là ensemble.
Moi, j'ai senti une évolution, ce que je disais tout à l'heure dans vos influences. J'ai pensé notamment sur Was Mod à Primus, à Zappa, Nirvana bien évidemment, mais il y a aussi du My Bloody Valentine, je trouve, dans Kelso, ou même du Divo dans le single I'm Still Ill, ou encore à Primal Scream. Je sais pas si c'est des influences que vous avez ou alors c'est totalement inconscient.
Non, carrément, franchement, tous les groupes que t'as cités, je les connais, je les ai écoutés, donc ça fait sens. Et pour le coup, je trouve que le délire d'Ivo, ça colle pas mal dans les thèmes de l'album. Voilà, le truc de la stupidité un peu... un peu choisi et puis un peu mettre le doigt sur ce truc là, ça rentre totalement dans l'album. Et puis au niveau des influences, les groupes que t'as cités utilisent beaucoup la saturation et les murs du son et tout ça, et c'est clairement dans notre ADN de groupe, quoi.
Tu parlais des thèmes là, Toano, de quoi parlent les chansons véritablement? Est-ce que c'est un concept album autour de ces Negative Freaks, ou alors c'est le titre est venu plus tard?
Non, le titre est venu plus tard. Les thèmes, c'est un peu sombre. C'est quand même un album qui parle du monde qui s'écroule tout autour de nous, quoi. Mais et ça parle de ma réaction personnelle par rapport à tout ça et ce truc-là de faire partie en fait de ce monde qui s'écroule, quoi. Et donc il y a une forme de culpabilité, mais aussi il faut se sortir aussi de ce truc de culpabilité, donc il faut aussi un peu se battre, et puis en même temps non, enfin c'est plein de contradictions et c'est plein de choses fourre-tout. Il n'y a pas de vrai thème défini, mais la toile de fond, c'est cette ambiance-là en fait.
Donc Army Shadid qui offre une belle pause en fin d'album, il y a peu de temps mort. Est-ce que vous avez envie de vous poser, de vous calmer parfois? Je sais pas, est-ce qu'on peut imaginer un album piano-voix un jour?
Justement, cet album-là, on l'a fait parce que... Enfin, moi, j'avais aussi envie de le faire parce que on était trop calme, justement, sur les albums précédents, et j'avais envie en live de retrouver peut-être les trucs du début du groupe où c'était quand même un peu plus vénère. Et donc non, pour l'instant, faire... Enfin, en fait, tout se fait naturellement. Si on a envie de faire un album avec piano-voix, on le fera, mais il faut juste qu'on ait envie de le faire, quoi. Mais tout se fait... On se pose jamais la question, « Ah tiens, dans 5 ans, on va faire cet album comme ça. » Tout se fait hyper naturellement.
Est-ce qu'on peut imaginer que la dimension démocratique va continuer sur le prochain album ou alors on revient au despotisme?
Oui, on va continuer à faire des albums de groupe, ça c'est sûr. Peut-être que le nom va changer pour que ce soit un peu plus clair. Enfin, il va y avoir un nouveau nom qui va s'ajouter à Tillage d'Afrique parce que je pense que je vais continuer à faire des albums seul aussi. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on parle déjà de faire un prochain et tout, donc ça va se faire.
Rémi, Quentin, Sylvain, Toineau, merci beaucoup. Je rappelle que votre album Negative Freaks du groupe TH d'Afrique est sorti chez All In Banana Records, Flipping Freaks Records et les Disques du Paradis. À bientôt.
Salut.
Merci. Salut.
La Belgique, pays plat, terre de festival, connue pour son absence de chauvinisme, a pourtant de quoi se vanter. Et pour cause, le groupe Marcel sort son deuxième album, Au Fornaise, une pépite post-punk qui met le feu aux poudres. À écouter et découvrir avec Romain de la radio PFM.
Ce que l'on vient d'écouter, c'était Bachot, Bachot, Bachot de Marcel, un extrait de leur nouvel album Au Fornaise, sorti chez Loïc Music et Géographie Records. Avec vous, c'est Romain de PFM à Arras et on est avec Amaury au téléphone. Donc salut Amaury.
Salut.
Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui tu es, nous présenter rapidement ton groupe Marcel?
Alors je chante et je fais les paroles dans ce petit groupe belge. Donc, qui s'appelle Marcel. On existe depuis 2021. Donc juste à la sortie du Covid, donc on a un petit peu préparé notre matériel comme ça dans les salles de répète pendant les confinements et tout ça, donc plutôt un peu clandestinement on va dire. Et voilà, on a commencé en 2021, on a sorti un premier album en 2023 et on vient de sortir le deuxième qui s'appelle Au Fournaise.
Ok, et donc si j'ai bien compris, il y a une personne avant qu'on parle du disque un peu extérieur au groupe qui, j'ai l'impression, a contribué à votre succès, à vous faire rapidement un nom dans la scène musicale, c'est Damien dit Titanita.
Oui, c'est ça, oui, qui était dans les Titanita, en effet. C'est un peu la personne qui nous a fait confiance en tout premier lieu. On lui a envoyé même les chansons de premier EP avant qu'il sorte. Et voilà, ça lui a plu. Il nous a trouvé un premier concert en première partie de Slift. Donc ça, c'était vraiment la toute première fois qu'on jouait ensemble. Donc c'était quand même, on nous a propulsé dans un bain bien volcanique, quoi. Ouais, donc c'est vrai qu'on lui donne une fière chandelle par rapport à ça.
Et du coup, c'est rigolo parce que votre nouvel album, Au Fournaise, il me rappelle un peu l'état d'esprit de la première fois où j'ai vu jouer Hit Hit Anita. C'est la fête, genre on se prend pas au sérieux, on rigole, tout en écoutant de la musique un peu énervée, pas forcément très en rapport avec l'image qu'on se fait d'une fête. Et du coup, je me demandais si c'est dans ma tête ou parce que je traîne avec des gens un peu bizarres, ou si en Belgique, vous avez un rapport un peu particulier à la fête et aux esthétiques non conventionnelles.
Mais en fait, je peux pas te répondre comme ça sans évoquer des choses qui touchent même carrément à l'histoire de l'art, à l'anthropologie et tout ça, parce que c'est quand même ultra compliqué comme question. Donc en gros, si tu veux, pour moi, ça se retrouve clairement dans, en tout cas, les peintures des primitifs flamands, où, je sais pas si tu vois un peu des Bruegels, tout ce qui est les fêtes villageoises ou les danses de Saint-Guy, qui en fait te retrouvaient aussi dans les Hauts-de-France. Finalement, en fait, c'est vraiment la même culture. Hein. Quand on y pense, ça va même du bas des Pays-Bas jusqu'à une partie d'Allemagne. Il y a cet aspect hyper inquiétant associé à la fête et la libération de pulsions qui sont un peu condamnées par l'Église depuis, on va dire, l'Église et la bourgeoisie depuis le XVIe siècle. Donc en fait, il y a un peu ce truc-là où on veut restaurer ça, en fait, restaurer un rapport avec la fête qui est complètement libérée de toute contrainte, libérée de tout carcan, en fait. Et je crois que c'est vraiment un truc qui se retrouve fort en Belgique, mais qui se retrouve aussi beaucoup, je pense, dans les... Enfin, quand tu vois à Dunkerque, le carnaval de Dunkerque, il est complètement dingue aussi, tu vois. Donc c'est des trucs, je trouve, qui se retrouvent pas mal dans le nord de la France, en Belgique, et aussi un petit peu dans d'autres parties de l'Allemagne et des Pays-Bas, quoi. Donc c'est pas propre à fond aux Belges, même si j'entends souvent les Français nous dire ça.
D'accord. Et le carnaval, justement, en Belgique, que ce soit aussi bien le côté passé, mais aussi actuel, comment ça vit toujours. Est-ce que tu pourrais, pour les gens qui sont justement pas du nord de la France ou de la Belgique, essayer de restituer un peu ce que ça représente, les carnavals en Belgique?
Justement, en fait, il y a une chose en Belgique qu'on aime faire, c'est se dévaloriser et dire qu'on n'a pas d'histoire. Et en fait, il y a un truc quand même qui représente, on va dire, une perpétuation de tradition multiséculaire vraiment hyper hyper vieille, c'est bien le carnaval, quoi. Donc on retrouve des traces du carnaval jusque, enfin, vraiment très loin, ça parfois 1000 ans, et ça, d'aucuns disent que ça remonte même jusqu'à l'Antiquité. En fait, dans nos régions, ça a été super super important pour souder les villageois, souder les gens des classes plus inférieures, pour se rebeller d'une certaine manière contre des rôles préétablis dans la société. Donc ça, c'est un truc vraiment hyper important pour les Belges maintenant, même si on peut dire que le carnaval, ça a quand même été bien récupéré, c'est toujours encadré par la police, mais il y a, par exemple, il y a des carnavals sauvages, je pense que il y en a aussi à Marseille, par exemple, j'ai vu des images assez dingues de carnaval un petit peu plus moins conventionnel, et alors pas autorisé par les municipalités. Et ça, c'est vraiment l'esprit du carnaval de base. C'était vraiment, on fait ça sans prévenir les autorités, et on s'en moque d'une certaine manière. Et ici, à Bruxelles, là où je vis, il y en a un qui est vraiment hyper dynamique, super beau, je convie tous les Français qui nous écoutent à venir le voir. C'est généralement à la mi-mars, donc on vient de l'avoir, nous. Et c'est vraiment, c'est justement un carnaval hyper coloré, fait avec que des trucs artisanaux, donc rien acheté en magasin et tout ça, que de la récup. Et c'est vraiment tout cet esprit-là qui est super important et qu'on retrouve aussi dans d'autres choses vraiment plus populaires en Belgique, quoi.
Du coup, pour revenir à votre actu, votre deuxième album, Au Fornaise, comment tu pourrais le présenter aux auditeurs?
Alors, si vous avez découvert le premier, c'était, on va dire, du post-punk un peu plus festif, plus joyeux, un peu débridé comme ça. Et je dirais que le deuxième est un petit peu plus expérimental, un petit peu plus noise, tout en gardant un côté hyper... débridé, chaotique et jouet, on va dire.
D'accord. Et musicalement, du coup, est-ce que comment ça, oui. Ça se traduit, ce côté un peu plus expérimental et plus noise?
Mais, en fait, il y a surtout une grande variété. On a vraiment voulu encore plus sortir des cadres du pur post-punk, qui est quand même un genre assez balisé. Et on a voulu sortir, notamment au niveau rythmique, du pur 4-4 sur pas mal de morceaux. On a un morceau qui se rapproche carrément de la jungle, où on avait par exemple Amon Tobin en tête. C'est pas vraiment du rock, quoi. Donc ni du punk. Il y a des formats plus de musique classique, de jazz aussi qui nous intéressent. Donc c'est vraiment sur cet album-là qu'on a essayé de sortir le format rock-punk de ses carcans. Et juste pour un petit peu voir où ça pouvait aller, juste pour voir ce que ça pouvait donner, en fait, simplement, si on pouvait y arriver, et si ça pouvait aussi être intéressant à retrancher sur scène. On lit les communiqués de presse qui ont accompagné la sortie du disque. On y lit que vous avez construit le disque autour de la thématique du feu. Donc moi, j'aurais aimé savoir pourquoi ce thème et comment vous avez choisi de le transposer dans vos différents morceaux. Est-ce que ça passe par les paroles uniquement, par la manière de construire les morceaux, par le choix des instruments ou des sonorités? Alors, la première question, comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Là, forcément, c'est moi qui me charge des paroles. Et c'est moi qui propose au groupe les thématiques vers lesquelles on va aller. Généralement, ils disent « Ok, c'est parti ». Mais l'idée en soi, je pense qu'il y a eu une année plutôt difficile l'an passé de mon côté, avec pas mal de trucs chiants qui sont passés. Et d'un point de vue politique, on ne peut pas dire que la situation s'améliore de jour en jour. Donc, il y avait un peu cette impression générale de vivre un peu dans une espèce de, sur le bord d'un volcan, d'une espèce de brasier comme ça. Et si on prend un peu si on file la métaphore plus loin, t'as quand même l'impression aussi qu'on est en dessous d'une énorme boule de feu qui est au-dessus de nous, le soleil, quand tu remets tout en contexte, t'as l'impression qu'en fait, tout n'est qu'une espèce de grand brasier de l'univers comme ça. Et qu'il est passé d'un point de vue plus micro, on retrouve ce côté chaleur, la passion dans nos propres comportements, le côté irrationnel de l'être humain, toutes ces choses qui peuvent pas vraiment s'expliquer par la raison. Et j'avais envie de mettre ça en perspective, notamment voilà, le rapport avec la religion, le rapport avec la nouvelle religion qui est le capitalisme, le mercantilisme. C'est tout ce rapport en fait où on échappe totalement en fait à une explication rationnelle. Et pour moi, c'est un peu le symbole du feu. C'est quelque chose que, bon, c'est aussi une référence un peu à Thélo, mais il y a par exemple un bouquin de Gaston Bachelard qui s'appelle La psychologie du feu et qui est assez intéressant pour voir un peu dans quelle mesure, quel est notre rapport en fait avec cet élément-là qu'on connaît en fait apparemment très peu. Apparemment, d'après le physique, c'est vraiment quelque chose d'encore très mystérieux. Et pourtant, c'était déjà quelque chose qui intéressait à fond les philosophes déjà du temps, bien avant Platon et tout ça, chez les Grecs, par exemple. Donc c'est tout un truc que j'ai voulu remettre dans un contexte. Et d'un point de vue musical, pour répondre à la deuxième question, en fait, on a une certaine intensité et un côté hyper protéiforme, comme je l'ai dit, avec la variété des formats qu'on utilise. Donc il y a ce truc protéiforme comme une flamme, comme un feu qui peut avoir énormément de formats, de possibilités d'exister, quoi. Et donc pour moi c'était un petit peu c'est comme ça qu'on traduit toutes ces formes de feu différentes, le feu psychologique, le feu comme un vrai incendie, le feu comme une passion humaine. Donc voilà.
Et justement, il y a la question de la joie. Je suis pas le type le plus fun du monde, mais si j'ai bien compris, avec Marcel, votre but, au-delà voilà, du côté érudit qu'il peut y avoir dans les influences, dans l'inspiration, c'est de faire une musique qui soit joyeuse. Avec aussi, j'ai l'impression, parler de carnaval, un côté subversif. Donc, est-ce que c'est quelque chose, au-delà de l'intention que vous essayez de mettre dans les morceaux, dans la logique de composition, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur scène, le côté joyeux, subversif? Comment vous essayez de mettre ça en forme ou de transmettre ça au public?
En concert, en tout cas, on essaie aussi d'être assez accessible par rapport aux gens. On n'est pas vraiment du genre à se ramener sur scène, à tirer la tronche et à pas parler et à avoir un visage fermé. On est comme dans la vie, on n'a pas à avoir une posture de gars mystérieux ou je sais pas quoi. Et d'un côté, on n'a pas non plus des déguisements hyper loufoques avec, je sais pas, on n'est pas déguisé non plus en mode carnaval. Mais je pense qu'il y a, juste un côté détendu, en fait. Détendu, où on n'est pas là pour prétendre être ce qu'on n'est pas. Et on est là juste simplement pour passer du bon temps avec les gens et qu'ils puissent libérer toute cette énergie que chacun a en soi. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui était pas mal aussi dans ce titre d'album de Idols, si je me rappelle bien, c'est Joy as an act of resistance, comme ça. Ouais. La joie comme un acte de résistance, c'est exactement ça en fait. Pour moi, c'est dans un monde où tout devient de plus en plus angoissant, anxiogène et tout ça, rechercher la joie, rechercher de la communication, rechercher de l'échange, rechercher du partage, ça relève de l'acte de résistance. Et cette joie qu'on essaie de communiquer, pour moi, c'est totalement politique. C'est vraiment essayer toujours de créer du lien et rapprocher les gens pour qu'on arrête de rester juste tous à regarder les mêmes séries Netflix dans notre canapé, à tous lire les mêmes bouquins, à tous regarder les mêmes films et simplement, en fait, créer de la variété. Et en fait, la variété, pour moi, en fait, apporte de la joie, quoi. Sort de la monotonie.
On était avec Amaury de Marcel pour parler de Au Fornaise qui vient de sortir chez Loic Music et Geography Records. N'hésitez pas à aller sur la page Bandcamp Vive Marcel pour écouter le disque, retrouver le lien vers leurs réseaux sociaux et aussi leur date de concert avec entre autres le 18 avril un passage à l'Aéronef à Lille, le 26 avril ils seront aussi à Courtrai. Et ils seront pour les auditeurs de Radio Primitive à Reims le 25 mai. Et il y a encore aussi d'autres dates au Benelux, dont certaines en festival.
Kate Bush et Siouxsie, deux grandes références de la pop des années 80 qui sautent aux oreilles à l'écoute de Chocolate Ashtray, la cinquième sortie de l'artiste Molto Morbidi qui a conquis Fred de Radio Alpa.
Don't I ever go to the place where it all starts? Don't I ever fly so high, I lose touch with the ground? Sideways the way, the only way to keep my sight. Blinded by the mind. Climbed up to the top. Seclusion makes you forget the way. You're out of touch, baffled by the view. Come on now.
Bonjour Swan.
Salut Fred.
Swan, alias Molto Morbidi. On vient d'écouter donc Sideways the Way, un extrait du nouvel EP Chocolate Ashtray, cendrier en chocolat. C'est ça qu'on peut,
ouais,
on peut le traduire comme ça. Sorti le 11 avril 2025 sur le label No Salad Records. Pour l'instant, j'ai tout bon.
Absolument.
Ma première question, c'est tu as sorti il y a à peine un an ton premier album, String Cheese Theory, salué par la critique. Ce nouvel EP, c'est quoi? C'est, tu avais trop de titres, tu en avais laissé de côté, ou c'est parce qu'en ce moment, tu as une inspiration multidébordante?
J'avais trop de titres, mais les titres de l'EP, c'est des nouveaux titres. C'est pas ceux qu'on a laissés de côté de l'album. Ceux-là, ils sont jamais sortis. Je sais pas s'ils sortiront un jour. Non, c'était vraiment, c'est le reflet de ce que j'ai continué à écrire. Alors, en amont de la sortie de l'album, parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où l'album sort et l'album où il est fini, et puis après la sortie de l'album. Donc c'était bien de les sortir. Il y a encore d'autres titres qui sont pas sortis, qui j'espère sortiront sur un deuxième album.
Un deuxième album en prévision, c'est ça?
Ouais, j'aimerais bien.
On qualifie souvent ta musique de synth-pop bizarre. Tu joues de la basse, du clavier, synthé, tu crées des boucles de batterie, de mélodies sinueuses. C'est quoi ton processus de création et de composition? Parce que tu es toute seule, hein, je rappelle, là, c'est un projet solo. Donc tu es toute seule dans ta chambre et ça se passe comment? C'est, tout d'un coup, tu as une illumination?
Ça se passe de plein de manières différentes. Il n'y a pas une manière de procéder qui se répète à chaque fois. Parfois, c'est quand je suis en train de préparer des concerts où je me retrouve à faire des jams toute seule. Et il y a des choses qui se dessinent et ça fait des ébauches de morceaux. Parfois, c'est que j'achète un nouveau synthé et je bidouille. Il y a des sons que j'aime bien qui m'inspirent et ça part de là. Parfois, c'est des textes. Parfois, je chante dans la voiture et je m'enregistre. et voilà. Donc, c'est un peu tout ça. À la fin, ça fait des morceaux.
Mais ta base de départ, il y a souvent des boucles qui sont composées. C'est parce qu'elles te viennent comme ça. C'est comme tu le disais, c'est parce qu'il y a un nouveau synthé et puis un nouveau son qui t'amène à créer une nouvelle boucle, une nouvelle mélodie.
Ouais, ça peut être comme ça. Ça peut être aussi lié au fait que quand je répète et vu que j'ai un looper sur scène, en fait, je construis des morceaux à partir du looper. Même si finalement, après, dans la version studio, on va dire la version enregistrée, je redéconstruis mes boucles pour ensuite les reconstruire en live. Mais ça peut être une explication aussi de ce que t'as remarqué dans mes morceaux.
On va écouter un deuxième extrait. C'est le premier single qui est sorti de cette EP. Donc c'est « Je connais ta chute ». We'll be right back. Chocolate Ashtray, extrait de ce nouvel EP, ben, qui elle porte le même titre, hein, c'est un éponyme. Je voulais un peu aborder d'autres réflexions sur ta façon de travailler. On sent à l'écoute des morceaux qu'il y a beaucoup de réflexions sur les arrangements, des notes par-ci, par-là qui reviennent, qui sont souvent en lien aussi avec le texte et ton travail sur la voix chantée, chantée, parlée. Il y a un côté perfectionniste que je sens à l'écoute de ton album et puis bien sûr de cette EP. Je suis dans le faux ou pas ?
Non, t'es dans le vrai. Après, c'est vraiment un aspect de ma personnalité. Même si je suis pas sûre d'arriver encore vraiment à faire exactement les choses comme je voudrais dans ma musique. Et par rapport aux arrangements, c'est vraiment ce que je préfère faire en studio, quoi. J'adore chercher des arrangements, tester plein de trucs, bidouiller ce côté-là. Donc, si ça s'entend, c'est chouette.
Et ce que je veux dire, c'est que c'est bidouiller, mais avec une volonté d'arriver à quelque chose. C'est-à-dire que tant que t'as pas trouvé ce que tu veux vraiment, tu peux y passer des heures et des heures simplement sur un son, sur juste trois petites notes qui vont être là que dans le morceau, mais il y aura que ce passage-là. C'est vraiment toute une grosse créa pointilleuse. C'est pour ça que je parle de perfectionniste.
Oui, complètement. Si tu prends les différentes versions d'un même morceau, quand je suis sur ce genre de bidouille. Effectivement, il peut y avoir trois notes qui changent ou qui vont pas être placées au même endroit ou qui vont, ça va être les mêmes notes mais avec un autre instrument. Et effectivement, même là sur les nouveaux morceaux que je suis en train de travailler, je sais pas si je devrais parler des morceaux qui sont pas sortis, mais effectivement.
Bon, après, c'est ton travail d'aujourd'hui aussi, hein,
ouais,
on le retrouve.
Ouais.
Hein.
Mais je passe beaucoup de temps là-dessus à essayer de mettre le doigt sur ce qui me satisfait pas encore et comment ça pourrait me satisfaire. Et des fois, c'est juste des petits détails qui font qu'on passe de quelque chose qui, bon, je n'étais pas totalement satisfaite à quelque chose qui me convient, quoi.
Concernant ton écriture, alors on reste dans le même sujet, un texte bien sûr et musique. Hein, je parle d'écriture générale. On a aussi l'impression qu'il y a une sorte de dualité opposée, texte triste du quotidien poétisé et musique sautillante, minimalisme et abondance de petits sons comme on vient d'en parler, tension et légèreté, vulnérabilité, affirmation. C'est une constante chez toi sur cette thématique là, à la fois au niveau des textes et puis le contrebalancement avec la musique ou inversement.
Oui, c'est totalement vrai ce que tu dis, mais pour le coup c'est pas vraiment volontaire, quoi.
Conscient.
C'est après coup que je me dis c'est quand même marrant d'avoir écrit ce texte-là et de le chanter sur cette musique-là. Mais c'est oui ça arrive souvent et j'ai pas trop de, pour le coup c'est pas calculé, je crois que ça se fait comme ça. Ça doit être des contradictions internes à moi-même que.
Mais c'est quelque chose que tu cultives cette contradiction ou c'est.
Ça me dérange pas en fait. Je le constate après coup et si le morceau il est sous-tendu par cette contradiction, c'est qu'il devait être comme ça et je l'accepte comme il est.
Comment tu abordes cette écriture là?
Au niveau de l'écrit, j'essaie. Alors en fait, j'essaie de toujours faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'assez évocateur. Dans ma musique pour que les gens puissent s'y retrouver. Donc en fait, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre être dans le flou total et du coup tout le monde peut y voir ce qu'il veut. Ça me conviendrait pas trop non plus. Mais oui, laisser de l'espace en fait pour que les gens puissent me rejoindre dans le morceau tout en faisant en sorte qu'il y ait quand même des indications pour pas aller dans une direction qui a rien à voir quand même avec le sens du texte.
C'est un peu l'exemple de ce titre-là, Chocolate Ashtray, Cendrier en chocolat. Et...
L'idée du cendrier en chocolat, c'était, je voulais essayer de trouver une formule qui, un truc complètement absurde, une manière d'exprimer l'absurdité un peu poétique, mais c'est drôle parce que, en Angleterre, les DJ qui ont passé ce titre sont assez dégoûtés par le titre, ça leur évoque un truc assez dégoûtant. Alors que, c'était pas tellement l'idée, mais ça va, j'accepte.
On va parler un peu de ton label, parce que par les temps qui courent, on sait que tous les projets artistiques, eh ben, c'est un peu la croix et la bannière, hein, pour trouver un label. Tu as réussi à faire une rencontre avec le label suisse No Salad Records. Ça a été difficile, ça a été facile. C'était par une rencontre comme ça, impromptue.
Oui, bah ça a été relativement facile par rapport à, enfin même oui facile par rapport à la difficulté que tu viens d'évoquer. C'est un peu un concours de circonstances. Suna Margaret, qui est derrière le label, a joué au Sieste Teriyaki et on s'est rencontrés.
Donc Teriyaki, un festival à Manceau.
Ouais. Et on s'est rencontrés par ce biais-là. Ils ont tout de suite aimé l'album et ils étaient motivés pour qu'on travaille ensemble. Donc c'était super. Ils ont aussi aimé les morceaux que j'ai proposés pour l'EP. Donc ça continue. Et j'espère qu'ils aimeront les prochains.
Donc c'était une rencontre comme ça fortuite et puis qui c'est voilà, c'est le coup de chance quoi.
Ouais,
le coup du hasard qui fonctionne.
Après je leur ai quand même proposé l'album, mais oui, du hasard, un mélange de hasard et d'insistance.
Eh bien, écoute, merci Swan. Donc on va rappeler l'EP, il est sorti le 11 avril 2025. Donc je rappelle le EP, donc Chocolate Ashtray. Il sera en numérique, hein, exclusivement et pas en physique. Mais par contre, il sera accompagné sur la version numérique de trois remixes faites par trois groupes. En attendant Anna, Ella Erlins, qui est une polonaise, hein, c'est ça, si je ne m'abuse.
Oui, elle est basée à Paris maintenant.
Et puis Tapeworms, un groupe aussi du nord de la France, un groupe français.
Oui, qui sont au Japon maintenant, mais qui sont de Lille, ouais.
Eh ben écoute, remercie beaucoup Swan d'être passé dans l'émission. On va terminer avec un nouvel extrait qui est le troisième titre de cette EP.
Casual Shape Shifting.
Merci beaucoup Swan.
Je t'en prie.
Diggers, l'émission des radios Ferrarock. À l'instant, l'interview de Molto Morbidi à l'occasion de la sortie de l'EP Chocolate Ashtray le 11 avril sur No Salad Records. C'était la carte blanche de la semaine par Fred de Radio Alpa. Zabingo de Radio Méga et Romain de PFM, ils vous présentaient tous les deux albums découvertes. Negative Freak de TH Afrik, paru chez All In Banana le 21 mars, et Au Fornaise, sorti via Luck Music et Geography Records, également le 21 mars. Pour écouter cette émission et en savoir plus sur les artistes soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.